rencontre avec nos évêques.
Oui, en effet, nous nous retrouvons avec Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes-et-Lourdes. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Mathias.
Vous nous accompagnez durant ce mois de janvier sur les différents sujets qui non seulement vous intéressent, mais intéressent toute notre société, intéressent l'Église. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons aussi bien sûr écouté avec attention le regard que vous portez sur la société d'aujourd'hui occidentale telle qu'elle est, avec ses souffrances, ses doutes et ses manifestations diverses ces derniers temps. Aujourd'hui, nous allons tenter, je prononce sciemment ce mot, tenter de nous plonger dans les enjeux bioéthiques tels qu'ils se présentent à nous et tels que nous les vivons. Parce qu'il y a les lois relatives à la bioéthique qui vont être révisées en 2019. Quand je prononçais ce verbe de tenter de nous plonger, c'est que c'est immense le champ qui se présente à nous lorsqu'on parle de bioéthique. Vous pourriez essayer de nous éclairer un peu pour nous montrer justement cette diversité des questions qui sont posées derrière tout cela.
D'abord, on peut reprendre la liste de ce qui est inscrit, en tout cas ce qui a été inscrit au moment des états généraux de la bioéthique. Donc il y a des questions de reproduction et de développement embryonnaire, il y a des questions de génétique et de génomique, il y a des questions de dons et de transplantation d'organes, la question des données de santé, la question de l'intelligence artificielle et de la robotisation, les neurosciences, la santé et l'environnement, la PMA. Vous voyez que c'est vaste. Alors, en France, on a ce système que tous les 5 ans, on révise les lois de bioéthique, c'est-à-dire, au fond, on se pose un certain nombre de questions. Je crois que ce qui est intéressant, là, c'est de dire que, au fond, c'est une réflexion sur ce que nous faisons du progrès scientifique, parce que le progrès avance, les recherches avancent. Il y a des tas de choses qu'on découvre, et puis maintenant, c'est un rythme accéléré, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on peut se dire, tiens, il y a des sujets nouveaux qui arrivent, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon. Et donc, par exemple, la question de l'intelligence artificielle, la question des robots, c'était une question qui se posait pas encore il y a 5 ou 10 ans. Bon. La question, vous voyez, de la révision des lois de bioéthique, c'est qu'on essaye de contribuer ensemble, en réfléchissant, à une interrogation sur ce que nous faisons de nos découvertes scientifiques et techniques appliquées à l'humain, à la personne humaine. Parce que vous voyez, il y a la question du progrès. Le progrès scientifique, il est indéniable, on découvre quelque chose. Est-ce que c'est forcément un progrès pour l'humanité? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on voit très bien qu'il y a eu des progrès techniques qui n'ont pas été forcément des progrès pour l'humanité, pour la planète. Par exemple, la bombe atomique. Ben, on voit bien, vous voyez, je prends un exemple massif où c'est un progrès scientifique incroyable. Mais disons des progrès plus simples. Regardez par exemple le Concorde. L'avion Concorde, c'était un super avion qui allait très vite. On a abandonné parce que, en fait, écologiquement, parce que ça n'était pas viable. Regardez les médicaments qu'on retire du marché parce qu'ils ont des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus. Bon, donc je prends volontairement, vous voyez, des exemples un peu massifs pour dire il peut y avoir un progrès scientifique indéniable. On fait des découvertes, on est très content. Est-ce que c'est toujours un progrès pour l'homme? Est-ce que c'est un progrès pour l'humanité, pour la personne humaine particulière? Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'interroge. C'est pour ça qu'il y a une bioéthique, c'est-à-dire finalement, on s'interroge sur le progrès moral. Alors, je voudrais dire aussi assez vite que, évidemment, il y a un certain nombre de progrès scientifiques qui vont résoudre des problèmes que des individus se posent. Mais quand on fait des révisions de lois de bioéthique, quand on fait des états généraux, on va au-delà de l'individu particulier. On se dit, qu'est-ce qui est bon pour notre société? Ça, c'est la question du bien commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour résoudre les problèmes des individus, par exemple quelqu'un qui peut pas avoir d'enfant et qui en souffre, et cette souffrance elle est totalement compréhensible. Bon, mais est-ce que la société peut voter une loi et rendre possible, rendre accessible un progrès technique parce que ça va résoudre la question se pose quelques individus. Ça c'est la question au-delà. De faire que le progrès technique résout des questions individuelles, est-ce que c'est un bien pour notre société?
le droit individuel ou le désir individuel qui s'opposerait parfois au bien commun. C'est cela que vous nous dites.
Ben, regardez, par exemple, dans la question de la procréation médicalement assistée pour des femmes seules ou bien pour des couples de femmes, la question se pose de dire est-ce que on a le droit d'organiser la naissance, la venue au monde d'enfants sans père ? Parce que c'est ça dont il est question dans la PMA pour la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes ou bien les femmes seules, c'est qu'au fond, il n'y aura plus de père. Il n'y aura plus de père juridiquement, il n'y aura plus du tout de père. Est-ce que nous avons le droit d'organiser cela ? Est-ce que c'est vraiment notre rôle ? Est-ce que c'est un bien pour le futur ? Alors on peut comprendre que des femmes vivant en couple aient envie d'avoir un enfant. C'est pas à moi de juger de ce désir. Mais est-ce que la loi doit entériner cela, doit organiser cela et doit faire que, au fond, des enfants vont naître sans figure paternelle, en sachant combien est importante justement la figure paternelle dans l'éducation d'un enfant. Alors, vous voyez, il peut y avoir un désir individuel, un désir particulier. Est-ce que c'est pour cela que la société doit prendre ça en compte et dire oui, nous allons voter une loi pour cela ? Voilà la question qu'on peut se poser dans des révisions de loi de bioéthique.
Monseigneur Brouvet, quel est l'apport spécifique du chrétien dans ce débat ? Vous avez déjà dit un certain nombre de choses là. Qu'est-ce qui est vraiment spécifique aux chrétiens pour qu'il puisse y avoir un éclairage dans ces débats sur toutes les questions, sur l'embryon, vous l'avez dit, sur la PMA, sur la personne humaine, sur même les robots, hein, et tout ce que la technique peut ajouter à l'humain. Voilà. Est-ce qu'il y aurait vraiment dans le débat une possibilité que le chrétien se fasse entendre de façon singulière ?
Voilà. Lorsque nous parlons de tous ces sujets-là, nous en parlons en raison. C'est-à-dire, ce ne sont pas des arguments de foi qui arrivent.
Ça n'est pas la morale non plus.
C'est assez de la morale, si, parce que ça concerne la personne humaine, le respect de la personne, le respect de l'embryon. Alors, on peut avoir évidemment un avis contraire. Mais un chrétien, il ne fait pas ça d'abord en utilisant des arguments de foi, hein, des arguments théologiques, hein, ou des arguments tirés de l'Écriture. Hein, simplement, il raisonne avec son intelligence. Je crois que tout le monde peut comprendre. Quand je disais tout à l'heure, par exemple, que est-ce qu'on a le droit de faire naître un enfant sans père dans l'horizon, c'est pas du tout un argument de foi. C'est simplement un argument de raison. On est là et on essaie de réfléchir. Par contre, ce que les chrétiens ont, c'est que à cause de leur foi, ils tiennent des choses. Par exemple, le respect inconditionnel pour la personne humaine. La personne humaine, même dans sa vulnérabilité, même dans sa fragilité, nous la respectons de manière inconditionnelle.
Ça, c'est un repère fondamental.
C'est un repère fondamental. Alors, je crois que c'est la foi qui nous fait tenir cela très fortement. Mais ça peut être compris de tout le monde. Et donc, pourquoi ? Parce que derrière, vous voyez, la dignité de la personne, la dignité inconditionnelle de la personne humaine, nous avons ce regard que tout être est aimé de Dieu. Et que l'enfant qui a été conçu, personne ne peut y toucher, parce que tout simplement, il y a ce regard de Dieu sur lui.
Donc à chaque fois qu'une proposition de loi arrive, elle peut être réinterrogée par le chrétien sur ce plan-là, en disant, est-ce que cela respecte la personne humaine, sa sacralité ?
Oui.
L'enfant, la personne âgée, que sais-je après, hein.
Et voyez, pas seulement pour dire non, au contraire, parce qu'il y a de magnifiques progrès, hein, qui ont été faits. Par exemple, regardez les soins palliatifs, hein, dans les questions de fin de vie. Depuis 30 ans, hein, il y a des soins palliatifs qui sont très développés en France, et puis en particulier dans notre département des Hautes-Pyrénées, il y a des associations, soit dans des institutions publiques, soit dans des institutions privées, soit dans des établissements, soit à domicile. C'est très beau de voir comment ce que on a pu réfléchir à l'accompagnement des personnes qui sont en fin de vie. Et ça, on a envie de dire un oui massif, vous voyez, à ces soins palliatifs qui sont vraiment qui tiennent compte, hein, de la fragilité de la personne, de la fragilité de son entourage, et qui nous aident justement à réfléchir à ces questions.
Comment peut-on se former, s'informer sur ces sujets ? L'Église produit de la réflexion. Vous-même, vous participez, hein, à un comité qui produit des réflexions et des écrits.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes. Là, vous avez entre vos mains, là, dans le studio, ce petit livret que nous avons fait sur les questions de loi de bioéthique, sur les enjeux de la révision des lois de bioéthique. Il se trouve sur le site du diocèse de Paris, sur le site de la Conférence des évêques, parce que ce sont des fiches qui ont été faites et coordonnées par la Conférence des évêques de France. Ça a été mis en page par le diocèse de Paris. Ces fiches, d'ailleurs, nous sommes en train de les enrichir, parce que elles ont été faites il y a plus d'un an et que depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un texte du comité national d'éthique, un texte du Conseil d'État. Il y a eu des discussions, des parlementaires, des hommes politiques qui ont pris la parole. Et donc, on est en train d'enrichir ce petit document pour que, au moment de la révision à l'Assemblée et puis au Sénat de ces lois, eh bien, nous ayons aussi un instrument pour vraiment comprendre les enjeux.
Ma toute dernière question, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire, ceux qui ne sont pas forcément surinformés sur ces questions? S'informer, c'est une première chose, mais il y a agir aussi.
La vie fragile, elle est tous entre nous, elle est entre les mains de tous. Hein, quand on a un enfant, quand on a un enfant handicapé, quand on va donner la vie, quand on a un grand-père ou un vieux père qui est en fin de vie. Et puis alors, il y a toutes les questions. Bon, il y a pas que les questions qui touchent au début ou à la fin de la vie, hein, mais il y a toutes les questions sur l'intelligence artificielle, sur les données de santé. Hein, vous voyez bien que Internet, bon, lorsque on parle d'Internet, on se dit, on va chercher des informations. En fait, on donne à peu près autant d'informations qu'on en glane sur Internet. Parce que dès qu'on prend un billet, on s'inscrit, on met nos coordonnées, on met notre âge. Et donc, dès qu'on fait un achat sur Internet, on livre des informations sur nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on livre tout un tas de données. Lorsque on parle des données de santé, et en particulier des mégadonnées, c'est-à-dire des données qu'on peut livrer sur Internet au sujet de notre santé, qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment la personne humaine, l'individu, va être protégé? Comment est-ce qu'on ne va pas laisser ces données utilisées? Dans les questions de l'intelligence artificielle, c'est la question en particulier des algorithmes, c'est-à-dire, vous voyez, de ces méthodes de calcul pour nous livrer un certain nombre d'informations. Ce sont des algorithmes aussi qui vont traiter aussi les données que nous donnons. Qui maîtrise ces algorithmes? Qui est derrière? Qui peut réguler aussi l'utilisation de ces algorithmes? Au fond, on est tous concernés par toutes ces questions, même sans s'en apercevoir. Mais il suffit juste de savoir que lorsque on va chercher simplement un vêtement sur Internet, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui est plus qu'un acte commercial, mais parce qu'on va livrer des données, qui utilisera ces données derrière? Et je crois que c'est important qu'on ait là aussi un débat sur l'utilisation éthique de ces données.
Donc pour comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière ces questions, il y a notamment ce document qui est en cours de révision, vous nous l'avez dit, bioéthique, comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique. Il y a également des documents produits qui sont présents sur le site de la Conférence des évêques de France. Merci Mgr Brouvet et à la semaine prochaine.
Merci Mathias, merci aux auditeurs.
Rencontre avec nos évêques.